Bonjour, je m'appelle Flora et je suis en PSTM G1. Nous sommes ici aujourd'hui pour interviewer Monsieur Sago, dirigeant de l'atelier de Nîmes. Mes camarades de classe et moi-même, nous allons poser des questions en lien avec les séquences de management traitées en cours. Nous sommes en compagnie de Alexandre qui présentera la séquence « Comment appréhender la diversité des organisations ?» de Nada qui présentera la séquence « Comment le management permet-il de répondre aux changements de l'environnement ?» De moi-même, je vous présenterai la séquence « Comment élaborer le diagnostic stratégique ?» de Mathias qui vous présentera la séquence « Comment interpréter le diagnostic stratégique et le traduire en objectif ?» et Cilia qui nous présentera la séquence « Comment élaborer les objectifs et les pratiques ?» Bonjour Monsieur Sago, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Eh bien bonjour, donc moi je m'appelle Guillaume Sago, je suis le gérant cofondateur des ateliers de Nîmes, donc c'est une marque que j'ai créée en 2014. Donc il nous a fallu vraiment beaucoup de temps en fait avant de pouvoir faire revenir le savoir-faire du tissage. On est réellement en activité depuis à peu près 2020. Donc nous on est spécialisé dans le domaine du tissage et en particulier dans celui du tissage de Nîmes.
Merci beaucoup. Pour commencer, Alexandre va vous poser des questions sur la séquence 1, comment appréhender la diversité des organisations.
De quel secteur d'activité votre entreprise fait partie ?
Alors donc nous, on est une entreprise artisanale, donc on est entre le secteur secondaire et le tertiaire. Donc on a une activité de fabrication, donc nous on transforme en fait du fil en toile. Ensuite, après, on a intégré aussi dans notre société donc la revente, donc en produits finis, donc en fait c'est des pantalons. Et ça, donc on travaille avec notre magasin et notre réseau distributeur en France. On travaille avec une quarantaine de boutiques.
Et est-ce que vous pouvez me citer vos ressources matérielles et immatérielles ?
Alors donc ressources matérielles, donc on a donc nos locaux. On a tout le matériel en fait de tissage, donc les machines, les deux machines. On travaille en fait avec aussi d'autres équipements. On a aussi donc ce qu'on achète chez nos fournisseurs, donc les bobines de fil en coton. On va avoir en immatériel donc tout ce qui va être savoir-faire technique du tissage et ressources immatérielles. Après, tout ce qui va être aussi ressources humaines, non, ça fait partie des ressources immatérielles, non? J'apprends en même temps que vous. Donc après, voilà, tout ce qui va effectivement tourner autour du savoir-faire et de la confection.
Alors bonjour, moi c'est Nada et je vais vous poser quelques questions. Donc la première, c'est quelles sont toutes les différentes parties prenantes internes ou externes de l'entreprise ?
C'est très technique, toutes ces questions. Tu peux me répéter, s'il te plaît ?
Quelles sont toutes les différentes parties prenantes internes ou externes de l'entreprise ? Donc interne, ça peut être par exemple... les salariés, et externes, ça peut être les fournisseurs.
Alors donc, nous, dans la société, on a actuellement 5 salariés, donc que ça soit au magasin directement ou à l'atelier. Donc ça va être vraiment en fait notre partie aussi interne. Et ensuite, on travaille avec différents fournisseurs, donc que ça soit donc le fournisseur de fil, celui qui nous fait aussi une étape, ça s'appelle l'ennoblissement. Donc une fois qu'on a la toile qui est tissée, on l'envoie chez un prestataire qui nous prépare la toile en fait pour la découpe. Et ensuite après on a un atelier avec lequel aussi on travaille en sous-traitance qui est au Portugal, dans le nord du Portugal, qui s'occupe de la confection générale des pantalons.
J'ai une question à vous poser, c'est comment intégrez-vous la responsabilité sociale au sein de votre entreprise, par exemple les conditions de travail ?
Les conditions de travail, après on travaille. En fait, ça va être vraiment aussi avec les personnes avec qui viennent travailler chez nous. C'est vrai que je me suis jamais vraiment trop posé la question parce que c'est quelque chose qui vient naturellement par rapport en fait au code du travail, etc. Nous, je sais que les employés sont assez libres aussi, en tout cas surtout à l'atelier de leurs heures de travail, c'est-à-dire en fait que ils peuvent commencer. Des horaires quand même à respecter, mais si le travail est fait, en fait, ça pose pas de soucis. On est aussi assez souple pour tout ce qui va être en congé, etc. Donc, on essaie en fait d'avoir une approche, on va dire, 2.0 du monde du travail.
Et une dernière question, du coup, qui est un peu en rapport avec la précédente, c'est comment gérez-vous votre équipe pour assurer une bonne organisation et un bon fonctionnement de l'entreprise ?
Je vous gère avec un fouet. Non, je rigole. Non, en fait, après, c'est un truc classique, hein. C'est vrai que sur tout ce qui va être personnelle. En fait, on a une approche assez d'égal à égal. Moi, en fait, c'est des gens qui viennent pour travailler avec moi et j'en ai besoin. Ils ont aussi eu besoin en fait de venir travailler. Donc, c'est une approche vraiment d'égal à égal. Je suis certes le chef d'entreprise, mais après, en fait, je suis pas vraiment derrière eux, en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, je suis pas derrière eux avec un bâton en leur disant de travailler. C'est des gens, en fait, qui sont très intéressés par ce que nous, on fait. Des gens qui ont vraiment fait le choix de venir intégrer la société. Là, par exemple, donc, j'ai une jeune fille qui travaille avec moi maintenant depuis 3 ans, qui a commencé par faire un stage. Elle était en graphisme. Donc elle, ce qui l'intéressait, c'était un petit peu le domaine de la mode. Ensuite, après, elle a changé d'orientation. Elle est partie sur quelque chose de peu plus textile, où elle a travaillé en alternance avec nous. Et comme ça lui a beaucoup plu, en fait, moi, son travail aussi m'a beaucoup plu. On a poursuivi en fait sur un CDI et elle travaille maintenant en CDI avec nous.
Merci d'avoir répondu aux questions et je vous laisse avec mes camarades.
De rien, merci beaucoup.
Alors, rebonjour, du coup, moi, c'est encore Flora, et je vais vous poser quelques questions. Du coup, j'aimerais bien savoir quelles sont les forces et faiblesses au niveau des ressources financières.
Alors, forces et faiblesses, donc ressources financières, donc c'est vrai que sur certaines sociétés, en particulier comme la mienne, comme on partait de rien, en fait, il faut monter par palier. C'est vrai que si tu vas faire des commandes et que tu t'aperçois finalement, en fait, que... t'as pas d'argent pour fabriquer, donc tu peux pas vendre. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, j'ai eu la chance en fait de pouvoir faire dès le début un petit peu sur fonds propres et d'avoir vraiment une stratégie en fait petit pas par petit pas pour pas en fait gaspiller trop de sous, etc. Et ça en fait, ça nous a permis de pouvoir en fait avoir des bons bilans et pour pouvoir en fait aller emprunter petit à petit en fait de l'argent auprès des banques. Nous, notre force financière, c'est que on a notre propre magasin en ville. Donc ça, en fait, ça nous permet de pouvoir en fait avoir une exploitation directe avec toutes les marges d'une société, puisqu'en fait, on n'a pas de revendeur. En fait, il y a personne qui se prend des marges entre nous et le magasin. Ensuite, après, on travaille aussi avec des revendeurs. Là, ça, c'est une force, non pas pour les marges, parce que les marges en fait baissent, mais c'est surtout que chaque revendeur nous achète de la marchandise. Donc en nous achetant de la marchandise, nous on peut se dire on a 500 jeans en fait qui sont déjà prévendus. Donc on va rajouter peut-être 500 autres jeans pour le magasin. Ça nous permet en fait de payer des productions. On sait en fait que on va avoir dans les 3 mois des chèques des magasins. Donc ça fait partie des forces. Ensuite après les faiblesses, nous on n'est pas une entreprise en fait de vêtements un peu classiques, c'est-à-dire que on fait pas de la confection et de la revente. On a aussi un atelier de fabrication, qui nous a coûté très cher à monter. Donc ça fait partie des faiblesses du début, puisqu'en fait il a fallu mettre beaucoup plus de sous dans les machines que de mettre des sous en fait dans les productions. C'est pour ça que ça nous a fait du temps long, mais sinon après ça se transforme petit à petit en force.
Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, j'aimerais bien savoir, pouvez-vous nous dire si vous faites des veilles stratégiques, donc par exemple la veille commerciale, concurrentielle, juridique, mais aussi technologique ou sociétale?
Alors de la veille, j'en ai fait pendant très longtemps, jusqu'à m'apercevoir en fait que finalement, ça apportait pas forcément de plus. Puis en fait, c'est intéressant quand même de faire un peu de veille pour voir en fait un peu la concurrence. Mais ce qu'il y a d'important, c'est rester focus sur ce que tu fais, sur le but final en fait de la société. En fait, je pense que le plus important c'est essayer surtout de comprendre en fait le client final, ce dont il va avoir besoin, pourquoi il est là, pourquoi il peut être intéressé par une marque ou une entreprise, parce que c'est finalement en fait lui qui va faire vraiment en fait vivre la société. Aller effectivement regarder en fait, faire de la veille. Alors de la veille juridique, c'est pas trop moi qui m'occupe en fait de ça, c'est mon cabinet comptable qui s'occupe de tout ça. Après de la veille concurrentielle, c'est vrai que moi sur mon entreprise on a une concurrence, nous on essaie en fait de se sortir un petit peu aussi de là, de proposer des produits qui vont être différents.
Merci. J'aimerais savoir quelle est la finalité de votre entreprise et comment poursuivre ses finalités en tenant compte de ses ressources et de son environnement.
Alors, ben, nous, la finalité de l'entreprise, en fait, on l'a un petit peu dépassée. C'est-à-dire que le but de la société, ça avait été en fait de réintroduire du savoir-faire, de refaire des, remettre des machines en fait à Nîmes sur le savoir-faire textile. La finalité qui va suivre, c'est petit à petit continuer de professionnaliser l'atelier en intégrant en fait de nouvelles machines, de nouveaux savoir-faire, histoire de pouvoir être de plus en plus indépendant sur toute la chaîne logistique de fabrication de la toile. Et petit à petit, bah, commencer en fait à travailler sur d'autres projets, sur des projets en fait de visite d'entreprise, de stage, d'ateliers de textile, d'ateliers de teinture, tout ce genre de choses.
Merci. Pouvez-vous nous dire quelle est la stratégie qu'utilisez-vous au sein de l'entreprise Atelier de Nîmes ?
Stratégie commerciale, stratégie ressources humaines.
Par exemple, l'Atelier de Nîmes mise sur la réhabilitation du savoir-faire local, donc une production responsable et un engagement écologique. Donc, réduction de 75% de la consommation d'eau. Donc, leurs jeans haut de gamme sont fabriqués artisanalement au Portugal et distribués en boutique en ligne et dans des points de vente en France.
D'accord, bah, c'était très bien, ouais, t'as bien réfléchi. C'était une bonne réponse. Oui, non, mais en fait, ouais, notre stratégie, c'est plus stratégie commerciale. Donc, en fait, stratégie commerciale, c'est de pouvoir proposer un produit qui sort un peu de l'ordinaire, qui propose aussi des valeurs. C'est vrai que nous, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à travailler sur les toiles, je me suis aperçu qu'il y avait une étape qui demandait beaucoup d'eau, beaucoup de solvants. En fait, c'était le désencollage, comme je vous avais montré en fait à l'atelier la dernière fois. Nous, nos fils, en fait, ils sont doux. Il n'y a pas de colle, en fait. Il n'y a pas d'enduit dessus. Et en fait, moi, quand j'ai vu qu'il fallait énormément d'eau, etc., je me suis dit, il faut trouver une solution pour éviter, en fait, de laver la toile. Hein, parce que ça permet d'économiser jusqu'à 20 000 litres d'eau tous les 700, 800 jeans, à peu près. Donc, si tu imagines, en fait, tous les milliards de pantalons qui sont vendus dans le monde, ça en fait des milliards de litres d'eau. J'ai préparé calculer ça. Ça fait l'équivalent, en fait, de... je sais plus, il y avait une petite retenue d'eau en fait, mais c'est quand même un truc énorme. Et donc moi, ça faisait vraiment peut-être partie aussi du but de la stratégie en fait, de pouvoir proposer un produit qui puisse en fait s'adapter à des nouveaux habitudes en fait, faire des économies d'eau, ça va être important, surtout qu'en plus c'est l'eau qui est lavée généralement avec les pantalons, elle repart dans les nappes phréatiques, mais elle est chargée en fait en colle, en produits chimiques et des trucs comme ça. Donc c'était vraiment en fait pouvoir proposer quelque chose en fait qui puisse plaire en fait aux gens qui sont intéressés par ce genre de choses.
Merci. Maintenant une dernière question. Quelles sont les opportunités et les contraintes au niveau de l'environnement de l'entreprise ?
Alors environnement, en fait il y a plusieurs environnements. Hein. Tu as en fait l'environnement direct, nous, voilà, comme contrainte, c'est qu'en fait on est obligé de travailler dans un atelier dans une zone artisanale. C'est vrai que parfois j'aimerais bien m'installer en centre-ville, mais avec les machines, en fait, si les gens qui habitent à côté entendent le bruit des machines, ça va être un peu compliqué. Donc ça, en fait, ça c'est une contrainte au niveau de l'environnement proche en fait de la société. Ensuite, après, il y a des contraintes en fait au niveau des environnements, c'est-à-dire que nous, pendant très longtemps, on a fait fabriquer nos pantalons en France. Mais le problème, c'est que les ateliers de fabrication en France nous faisaient mal les pantalons, mettaient en fait des retards de 3 mois en fait dans la production. Donc, si on doit nous livrer les boutiques en septembre et qu'on reçoit les pantalons en novembre, alors que c'est bientôt Noël. Nous, ça nous a impacté en fait énormément. Donc, ça faisait partie aussi en fait des contraintes dans l'environnement directement. Et après, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme contraintes ? C'était contraintes ou avantages ? Non, je m'en souviens plus. La question. Non, c'était que des contraintes.
Les opportunités.
Les opportunités aussi, c'est les opportunités en fait de pouvoir aussi la plus importante d'avoir créé l'atelier à Nîmes et de pouvoir en fait jouer avec tout ce storytelling qui nous a pas coûté un sou. Puisqu'en fait l'histoire en fait est là pour nous. Après aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'atelier en fait avec lequel on travaille au Portugal, il est pas très loin. Que ça soit en fait par la route ou en avion, en fait, on y a rapidement. Donc ça fait partie, en fait, c'est vrai que des opportunités, on peut même en avoir pas mal, parce que même sur Nîmes, Nîmes fait partie en fait d'un petit carrefour. En fait, il y a Lyon, le Montpellier, Marseille, donc elle est sur les routes. Ça nous amène aussi pas mal de gens. La ville est bien desservie aussi avec les réseaux de transport, que ça soit en fait l'aéroport, la gare, l'autoroute en fait à proximité. Donc ça aussi, ça c'est des opportunités en fait environnementales qui sont quand on entend environnement, pas forcément l'environnement nature, mais l'environnement général. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que la mode française, tout ce qui va être marque française, c'est très bien vu à l'étranger. Bon, moi en ce moment aux États-Unis, mais en fait dans le reste du monde, en fait, voyez, Japon, Corée, beaucoup de pays, en fait, c'est bien vu. Donc ça fait partie aussi des opportunités.
Merci. Je laisse la place à mon camarade Mathias.
Alors bonjour, moi je suis Mathias et je vais vous poser du coup 5 questions à mon tour. Donc la première question c'est, avez-vous déjà rencontré un conflit et si oui, comment l'avez-vous réglé?
Bonjour. Alors, des conflits, j'en ai, je vais pas dire quotidiennement, parce qu'en fait il y a toutes sortes de degrés de conflits. T'as des mésententes en fait parfois, ne serait-ce qu'avec tes associés. En fait, après ça se résout surtout avec le dialogue. Ça c'est très important en fait, le dialogue, parce qu'en fait c'est quelque chose. En fait, moi je me suis aperçu en fait que les gens dialoguaient pas, que ça soit en fait au quotidien. Il faut pas avoir peur en fait d'aller voir quelqu'un et d'aller lui dire bon, il y a un truc là, ça m'a pas trop plu, parce qu'après en fait si tu le gardes pour toi, bah ça boue, ça commence à bouillir. L'autre en fait, il est pas au courant en fait que qu'il y a des trucs comme ça. Et donc c'est des choses. Donc je pense que le béaba pour résoudre effectivement des conflits, c'est le dialogue. Ensuite après il y a les sous. Mais non, je rigole. Mais d'abord, enfin c'est vraiment le béaba, c'est le dialogue. Et en fait, quand tu t'apprends à dialoguer, en fait, à dire vraiment les choses, c'est ce qu'il y a de plus important pour faire passer les choses, quoi.
D'accord, merci. Ensuite, je vais vous demander, que faites-vous des déchets émis lors de la production des jeans et quel type d'énergie utilisez-vous pour la production?
Alors, donc nous, en fait, tout ce qui va être déchets, donc on a deux sortes de déchets. Les déchets, en fait, qui sont directement produits, nous, à l'atelier de tissage. Donc, en fait, ça va être les lisières, en fait, de la toile. Donc on a deux choses, donc on les envoie en fait en retraitement pour de la recyclage. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'on travaille de temps en temps avec le lycée Hemingway, qui ont en fait qui récupèrent en fait nous nos chutes pour en faire des projets textiles, etc. Et après tout ce qui va être énergie, c'est de l'électricité. Nous les machines fonctionnent à l'électricité.
Merci. Ensuite, que souhaitez-vous atteindre comme objectif et comment voulez-vous que vos objectifs poursuivent sur le long terme?
Alors les objectifs en fait, donc ça se réfléchit effectivement ouais, quelques années avant, et en fait l'idée c'est de pouvoir être toujours réaliste en fait avec les objectifs que tu souhaites avoir. Nous on a une maxime en fait dans la société, c'est Augusta per Angusta, ça veut dire en fait en latin vers les sommets par les chemins étroits. Donc en fait c'est vrai que tu vas doucement. Mais en fait, le but, c'est de pouvoir en fait aller toujours plus loin. Nous, l'objectif, là, bon, petit à petit, on avait au début donc l'objectif, donc de pouvoir avoir notre atelier de tissage. Ensuite, après, notre magasin en nom propre à Nîmes, développer notre réseau de distributeurs. Là, je pense qu'en fait, on peut développer notre réseau de distributeurs jusqu'à à peu près 80 distributeurs en France. Ensuite, après, notre objectif suivant, ça va être d'ouvrir un magasin à Paris. Et là, petit à petit, en fait, dupliquer les magasins dans différentes capitales en Europe ou même dans d'autres grandes villes, mais toujours en se disant, bon, voilà, en étant réaliste, que ça reste un produit de niche. On va pas aller ouvrir, en fait, un magasin. Alors, j'adore Alès. J'ai une maison là-bas, mais on va pas ouvrir un magasin, en fait, à Alès, par exemple. C'est-à-dire, en fait, que tu t'essaies, en fait, à chaque fois de te dire, bon, là où tu as un bassin d'habitants en fait assez important. Après aussi ça refait partie aussi de la veille, Je disais que j'en faisais pas trop, mais j'en fais un peu quand même. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir, je sais pas si vous connaissez la marque Paraboots, les chaussures Paraboots, en fait, des belles chaussures fabriquées en France depuis très très longtemps. C'est des chaussures qui sont vendues entre 400 et 500 euros. Donc c'est des chaussures qui en gardent toute une vie. Hein. Je pense que quand vous allez découvrir ça après, c'est-à-dire que quand on se fixe l'objectif un jour de pouvoir s'acheter en fait une paire de Paraboots. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir effectivement se dire, bah tiens, là où il y a des boutiques Paraboots, on peut ouvrir un magasin atelier de Nîmes.
Merci. Et pour finir, je vais vous poser la dernière question. Quel est l'objectif principal?
Ben, nous, notre objectif en fait principal, donc on en a un premier en fait, c'est de proposer des produits de qualité. Parce que c'est vrai que si tu proposes un produit qui est à un prix élevé et que finalement en fait tu t'aperçois que la qualité y est pas, tu as pas forcément en fait envie d'avoir d'y retourner. Donc nous, c'est vraiment en fait nos objectifs principaux, c'est de pouvoir proposer de la qualité, du service aussi, parce que bon, forcément un pantalon ça s'abîme. C'est de se dire bah tiens, mon pantalon il y a un trou. Généralement, s'il y a des trous sur les poches, ça va, il y en a plein maintenant qui en ont. Mais si tu as un trou à l'entrejambe, là, c'est plus embêtant. Donc, il faut effectivement pouvoir proposer un service de rapiessage. Donc, nous, on propose ça aussi. C'est-à-dire que si le pantalon s'abîme, ben, en fait, il peut être rapiécé et il peut repartir en fait encore pendant des années et des années après. Donc, ça, c'est vraiment en fait l'objectif, c'est du suivi et de la qualité.
Ça marche, merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser ma place à ma camarade Cilia.
Bonjour, je m'appelle Cilia et je vais vous poser quelques questions. Alors, en premier, quels sont les indicateurs RSE pris en compte pour l'atelier de Nîmes?
Et bonjour. Donc, RSE, donc, c'est quoi déjà? C'est responsable, sociétal et environnemental. Donc oui, enfin les indicateurs RSE, donc bon bah nous on a les indicateurs environnementaux en fait sur tout ce qui est gaspillage de toile, gaspillage d'eau, etc. Après social, je sais pas si je dois développer en fait par rapport à ça, mais c'est vrai que bon nous on comme on est une petite marque en fait, on n'est pas on le surveille en fait nous-mêmes tout ça en fait, c'est-à-dire en fait c'est des choses même qui vont de soi, c'est-à-dire que quand on crée une marque au 21e siècle, on reste pas en fait sur des idées du 20e, etc. On essaie en fait d'aller de l'avant. Ça fait partie des choses naturelles, c'est-à-dire en fait que sur l'environnement, que ça soit aussi sur la gestion du personnel, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait que nous on essaie de travailler avec des gens qui ont envie de bosser. Et s'ils ont envie de bosser, c'est que on peut leur faire confiance et on va pas être derrière eux à les fliquer. Savoir en fait ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils partent, etc. Bon, parfois en fait Aurore en fait qui a fait son stage, son alternance et qui travaille là maintenant, bah, parfois elle me dit dans l'après-midi, bah tiens moi j'ai des trucs à faire, je sais pas si je peux partir, j'irai le rattraper un autre jour. Donc moi j'essaie d'être assez souple en fait, par exemple sur ça. On a chacun en fait un boulot et un emploi du temps perso, il faut pouvoir concilier les deux. Parce que si t'es pas contente en fait dans ton boulot, tu ne seras pas dans ta vie perso. Si t'es pas content dans la vie perso et au boulot, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est comme ça en fait nous qu'on essaie en fait de travailler avec notre personnel.
D'accord, merci. Ensuite, quels critères d'évaluation permettent de juger la réussite de l'atelier de Nîmes?
Critères d'évaluation. Alors en fait, le premier, je pense que ça va être la satisfaction client. C'est-à-dire, en fait, plus t'as de clients satisfaits, mieux c'est, en fait, ça va être une gage de réputation. Ensuite, après, bon, bah, c'est celui que regarde tout le sous-chef d'entreprise, hein, c'est avec les scores au niveau, en fait, de la croissance et du chiffre d'affaires. Donc, en se disant, voilà, bah, nous, on a une croissance régulière depuis les débuts, qui commence, en fait, à s'accélérer puisqu'on commence à être mieux structuré. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on regarde au quotidien.
Et pour finir, quels sont les différents indicateurs tels que social, environnemental ou économique utilisés par l'atelier de Nîmes pour mesurer son impact?
Après en fait voilà, ouais, nous c'est avec notre notoriété, on l'évalue aussi, tu vois, par rapport en fait aux personnes qui rentrent dans le magasin, au retour qu'on peut avoir en fait par rapport à ces gens-là. Aussi quelque chose qui est très important et qui est flatteur, ça va être les articles dans la presse. Plus on va être relayé dans la presse et plus ça va nous permettre effectivement en fait de pouvoir calculer si on a une notoriété en hausse. Après, c'est vrai que ça reste après collé aussi sur ta première question. C'est toutes les évaluations économiques où, en fait, moi, quasiment tous les jours, je regarde les rentrées, les sorties, voir, en fait, voilà, pour la performance, en fait, de la société. Savoir si on faut garder ce cap ou s'il faut mettre, en fait, la barre à gauche ou la barre à droite, en fait, pour pouvoir vraiment piloter, en fait, au quotidien. Et j'ai de la chance, en fait, que la société soit pas très grande, même elle est plutôt petite. Donc, ça me permet, en fait, de pouvoir rapidement se dire, bah tiens, s'il y a un truc qui a pas marché, hop, on change de suite. Parce que plus tu vas être dans une grosse société, et plus il va falloir l'accord du N+1, qui va avoir l'accord du N machin, etc. Donc, c'est plus compliqué. Le mieux, c'est de travailler tout seul.
Bon, ben, d'accord, merci beaucoup. Du coup, je laisse la place à Flora. Alors, l'interview est désormais terminée. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Et merci aux auditeurs et auditrices pour votre écoute. Au revoir et à bientôt sur la radio du lycée Albert Camus.